du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mater Populi Fidelis, Mère du peuple fidèle. C'est le titre qui a été donné à cette note doctrinale sur certains titres Mario qui se réfère à la coopération de Marie à l'œuvre du salut. Je cite en entier. Cette note doctrinale qui est émise par le dicaster de la doctrine de la foi, DDF, on aime bien aujourd'hui ces acronymes, n'est-ce pas? Dicaster de la doctrine de la foi, hein, qui succède au Saint-Office, et donc qui est censé traiter les questions de foi. Elle est datée, cette note, du 7 octobre 2025, ce n'est pas anodin. Fête du très saint rosaire de Notre-Dame. Elle est composée par ce dicaster, notamment par son préfet. Elle a été revue et signée explicitement par Monsieur Prévost, Léon XIV. Donc, premièrement, faut pas dire « Ah ben, il est pas au courant », etc. Non, il assume pleinement. Cette note, qui est longue, en fait, assez confuse d'ailleurs dans sa construction, pour le coup, on voit qu'on n'est pas dans une théologie thomiste, scolastique, ne constitue pas une définition. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une portée théologique, et une portée théologique grave, parce que de la part de la congrégation qui est censée traiter des questions de foi sous l'autorité du pape, les éléments de doctrine que nous allons voir maintenant, en résumant ce document, on n'a jamais vu ça, sauf depuis Vatican II, dans l'histoire de l'Église, que les congrégations romaines s'éloignent autant de la théologie catholique. Même si l'objectif affiché et d'approfondir les fondements de la dévotion mariale en fidélité, dixit, à l'identité catholique, c'est de l'identitarisme catholique, et il ne s'agit pas de foi catholique, mais d'identité catholique, et dans un effort œcuménique. C'est-à-dire, il faut impérativement s'aligner pour ne pas fâcher les protestants ou les schismatiques orthodoxes, qui sont pas très orthodoxes aujourd'hui. La thèse principale de ce document, en fait, c'est que l'œuvre de notre salut est effectuée par le Christ seul. Le texte insiste beaucoup là-dessus. Donc, en détail, quant à l'acquisition du salut, donc ce qu'on appelle la rédemption objective, le salut est mérité et opéré par le Christ seul, à l'exclusion de toute autre cause, quelle qu'elle soit, dont la très sainte Vierge Marie. La coopération de Marie est reconnue, mais seulement comme participation subordonnée. Cette participation subordonnée, elle n'est que dans l'ordre moral extérieur, parce qu'effectivement, sans le fiat de Marie, il n'y a pas de mystère de l'incarnation, il n'y a pas de mystère de la rédemption. Donc là, pour le coup, évidemment, le document ne peut pas nier cette réalité. Mais on voit qu'il n'y a aucune causalité effective par rapport au mérite de notre Seigneur Jésus-Christ, donc qui sont obtenus pour notre salut, hein, puisque je vous le rappelle, le mystère de la rédemption, il consiste en ce que notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, rachète tous nos péchés, tous les péchés du genre humain, et nous mérite toutes les grâces nécessaires à notre salut. Hein, c'est ça le mystère de la rédemption. Donc Marie, elle coopère, oui, mais sans rien ajouter à la valeur objective de l'œuvre du Christ, et il n'y a pas de vrai mérite du salut par la très sainte Vierge Marie. D'où le refus du titre de co-rédemptrice. Le texte admet dans un petit paragraphe que ce titre de corédemptrice a été utilisé par le magistère précédent, notamment on peut citer Benoît XV, on peut citer le pape Pie XI, on peut citer le Saint-Office, donc le prédécesseur du DDF, Dicaster pour la doctrine de la foi, qui a admis l'utilisation de ce terme de corédemptrice comme convenable. Déjà, ça pose problème. Par contre, ce terme a été refusé par Vatican II, nous dit ce texte, cette note, pour des raisons doctrinales, pastorales, œcuméniques. Je cite, c'est intéressant parce que pour ceux qui nous disent que Vatican II, ben c'est un concile pastoral, il n'y a rien de doctrinal, là, le dicaster pour la doctrine de la foi admet explicitement qu'il y a des choix doctrinaux dans Vatican II. Donc on arrête de nous mettre la tarte à la crème du pastoral sans doctrine. Bref. Le titre de corédemptrice avait déjà été refusé par le DDF, c'est-à-dire à l'époque, en 96, c'était Ratzinger, qui se fera appeler plus tard Benoît XVI. Il l'a refusé une nouvelle fois en 2002, ce Ratzinger, et François Bergoglio a également refusé ce titre de corédemptrice. Donc, on a un avant Vatican II. Il est admis et la réalité qui est derrière est admise, et on a un après Vatican II. Voilà. Donc ça, c'est une constatation, même de la part de ce document. Je continue, donc ici, le Christ est opéré par le salut est opéré par le Christ seul. Donc Marie, elle coopère juste par son fiat, qui est nécessaire évidemment. Pour cela. Mais il n'y a aucun mérite et on ne peut pas l'appeler corédemptrice. Deuxièmement, par rapport à la distribution, à l'application des grâces, puisque ça, le mystère de la rédemption, c'est d'abord l'acquisition du trésor de grâce qui nous est distribué après. La distribution des grâces, c'est pareil, même topo, seul Dieu donne la grâce. Et il le fait à travers l'humanité du Christ. Je cite, « Aucun être humain, pas même la très sainte Vierge, ne peut agir en tant que dispensateur universel de la grâce. » C'est clair, c'est net, c'est précis. La communication de la vie divine jaillit d'un centre unique, le cœur du Christ, et, je cite, on ne peut pas penser que ce mystère soit conditionné par un passage par les mains de Marie. Une autre citation. Dans la parfaite immédiateté entre l'être humain et Dieu, pour la communication de la grâce, même Marie ne peut intervenir. Donc, le titre de médiatrice de toute grâce, eh bien, il est écarté. Il n'est pas écarté de façon absolue. Là, ils ne peuvent pas. Pour quelle raison ? Ben, parce qu'il est tellement universel dans l'histoire de l'Église qu'ils ne peuvent pas l'écarter de but en blanc. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Le diminuer. Le rôle de Marie est dit ici dispositif, c'est-à-dire que elle peut nous disposer à recevoir les grâces par son exemple et par son intercession. Donc, le titre de médiatrice des grâces peut éventuellement être utilisé, mais uniquement dans ce sens, selon ce texte. Alors, qu'est-ce qui reste à la très sainte Vierge ? Par rapport à la rédemption objective, comme je vous l'ai dit, il reste cette coopération de Marie. Elle s'identifie en réalité à sa maternité divine. La coopération de Marie, c'est la maternité divine. C'est tout le début de ce texte qui fait la part belle à la liturgie orientale, etc., pour faire plaisir œcuméniquement aux schismatiques orientaux. Et donc, on garde la maternité divine. Mais cette maternité divine, eh bien, elle n'a pas d'influence réelle ni de causalité par rapport au mérite de notre salut. Elle est mère de Dieu, effectivement, impossible de le nier quand même, mais cela s'arrête là. Par rapport à la distribution des grâces, la coopération de Marie est identifiée à sa maternité spirituelle. Elle est donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit le texte, sur la croix, quand Jésus s'adresse à la Sainte Vierge en lui disant « Voilà ton fils » et à Saint Jean « Voilà ta mère hein, », ce qui est représenté éminemment ici à la chapelle avec Saint Jean et la Sainte Vierge au pied de la croix. Donc c'est une maternité qui est spirituelle, qui va s'exercer par exemplarité. Elle est la première des rachetés, elle est fidèle en tout à la grâce, donc on doit l'imiter, comme les enfants vont avoir tendance à imiter leurs parents. Et puis, elle va disposer nos âmes à recevoir la grâce, elle va intercéder pour nous. Mais vous voyez que ce n'est pas ça la maternité, parce que la maternité au sens strict implique une causalité. La mère d'un enfant, donc notre mère, est réellement notre mère, c'est-à-dire qu'elle nous a engendrés, elle nous a donné la vie, notre père aussi d'ailleurs. C'est pareil dans l'ordre spirituel, hein, Marie qui est comparée à la nouvelle Ève, et on peut dire qu'elle nous a donné aussi la vie spirituelle. Mais je vais revenir sur ces questions. Qu'est-ce qu'il reste donc comme titre à la très sainte Vierge ? Les titres de mère des croyants, mère de grâce, mère du peuple fidèle. Enfin, un peu plat hein, comme titre. Mère des croyants, mère de grâce, mère du peuple fidèle. Bon, c'est bien beau tout ça. Mais voilà, ça ne nous avance pas grand-chose au niveau dogmatique. Voilà résumé ce texte qui est assez long. Au contraire, nous dit Saint Pie X dans sa magnifique encyclique Ad Diem Illum, si vous voulez, pour ceux qui auraient lu par hasard, je ne vous invite pas à le faire, le texte du DDF, eh bien, lisez le contrepoison, c'est-à-dire l'encyclique Ad Diem Illum du pape Saint Pie X de 1904, par laquelle il célèbre le 50e anniversaire de la définition de l'Immaculée Conception de Notre-Dame. Parce que c'est l'antithèse, en fait, de ce texte, tout simplement. La conséquence, nous dit Saint Pie X, de cette communauté de sentiments et de souffrances entre Marie et Jésus, cette communauté, c'est que Marie mérita très légitimement de devenir la réparatrice de l'humanité déchue. Et là, Saint Pie X cite un bénédictin et admère, donc, du Moyen-Âge, sur l'excellence de la Vierge Marie. Donc Marie mérita très légitimement de devenir la réparatrice de l'humanité déchue et partant la dispensatrice de tous les trésors que Jésus nous a acquis par sa mort et par son sang. Donc vous voyez que c'est l'antithèse. Elle a mérité d'être appelée réparatrice, corédemptrice, en fait c'est pareil, et dispensatrice de tous les trésors, médiatrice de toute grâce. Antithèse de ce texte. Comment répondre théologiquement ? Eh bien, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. Le texte essaie de créer une opposition entre Jésus, seul rédempteur, et toute médiation créée. Il n'y a pas d'intermédiaire. Solus Christus. On croirait entendre Luther et les protestants. Parce que, il cite la Sainte Écriture, Saint Paul, il n'y a pas d'autre nom au ciel et sur la terre par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus, etc. Pas de coopération à la grâce, immédiateté de la grâce. Tout cela, c'est juste que le Christ seul mérite d'un mérite. De condigno, le pape Saint Pie X répond, parce que, je cite, Marie l'emporte sur tous, en sainteté et en union avec Jésus-Christ, et qu'elle a été associée, co-rédemptrice, par Jésus-Christ à l'œuvre de la rédemption, elle nous mérite de congruo, de convenance, comme disent les théologiens, ce que Jésus-Christ nous a mérité de condigno, de droit. Et elle est le ministre suprême de la dispensation des grâces. Le pire, c'est que la note du DDF, évoque cette question du mérite de condigno et de congruo, du mérite de condignité, de droit, et du mérite de congruo, c'est-à-dire du mérite de convenance. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Le mérite de condignité, c'est celui qui découle de la nature même des choses, ou de la nature même de celui qui mérite. Qui est-ce qui mérite notre rédemption? C'est notre Seigneur Jésus-Christ, effectivement. Il la mérite d'un mérite de condignité, parce que Jésus est Dieu, est une personne divine. Et donc c'est une personne divine qui naît pour nous, qui vit pour nous, qui souffre pour nous, qui meurt pour nous, qui ressuscite pour nous. Donc, toutes les actions de notre Seigneur Jésus-Christ sont d'un mérite absolument infini, pour réparer le péché originel et tous les péchés des hommes, pour constituer une satisfaction suffisante à tous ces péchés, et pour nous mériter toutes les grâces nécessaires à notre salut, que ce soit la grâce sanctifiante, que ce soit les grâces actuelles. Effectivement. Et seul, on est d'accord avec ça, notre Seigneur Jésus-Christ peut mériter tout cela de condigno, de manière parfaitement égale, juste. Il n'y a pas de problème là-dessus. On est d'accord, et le pape Saint-Pie X le dit. Mais là où le document pêche, c'est qu'il veut utiliser cette doctrine pour exclure tout autre mérite, y compris ceux de la très sainte Vierge Marie. Je vous relis ce que dit le pape Saint Pie X. Elle nous mérite de congruo, comme disent les théologiens, ce que Jésus-Christ nous a mérité de condigno. Donc la même chose. Donc toutes ces grâces, nous dit Saint Pie X, elle nous les a vraiment méritées. Le document, la note, nous parle de ce mérite des condigno, des congruo. Il se permet même de citer saint Thomas d'Aquin. Mais il n'y a qu'une citation sur le mérite des condigno par rapport à la première grâce. Il ne cite absolument pas saint Thomas d'Aquin, qui nous dit à un autre endroit que toute personne qui et dans la grâce sanctifiante, qui donc fait des bonnes actions, et donc qui veut des grâces, toute cette personne, elle mérite elle-même. Elle mérite elle-même des condigno, parce que quand je suis dans la grâce sanctifiante, je mérite réellement. Mes actions ont une vraie valeur. Je ne peux pas mériter ma première grâce, c'est-à-dire ma conversion. Je ne peux pas mériter ma grâce de retour de façon équivalente, condigne, comme on dit, si je suis tombé dans le péché. C'est vrai. Mais je peux véritablement mériter. Si vous êtes dans la grâce sanctifiante, vos actions sont vraiment méritoires, d'un mérite de condignité. Vous méritez des grâces actuelles. Vous méritez l'augmentation de votre grâce sanctifiante, vraiment, d'une façon propre et d'une façon condigne. Le document n'en parle pas. C'est une omission qui est grave à ce niveau-là. De même, on peut mériter des congruo, de façon convenable, la première grâce pour les autres. À partir du moment où on est dans la grâce sanctifiante et qu'on veut cette grâce aussi pour les autres. Donc, qu'est-ce qui empêche Notre-Dame qui, dès le premier instant de sa conception, a la grâce sanctifiante. Elle n'a jamais été autrement que dans la grâce sanctifiante. C'est ce que rappelle le pape Saint Pie X en faisant référence à la définition de l'Immaculée Conception. Étant donné qu'elle a toujours été dans la grâce sanctifiante, toutes ses actions ont toujours été méritoires. Elle n'a jamais perdu aucun mérite. C'était des mérites de condigno, même pour elle-même. Donc, qu'est-ce qui empêche que, puisque Marie, du début à la fin du mystère de la rédemption, de la conception de notre Seigneur Jésus-Christ miraculeuse en son sein, et obtenu par son fiat jusqu'à la croix, à la résurrection de notre Seigneur, à son ascension au ciel, Marie a été associée à toutes les actions de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pourquoi on lui refuserait d'avoir mérité des congruo par un mérite de convenance ce que Jésus a mérité des condigno? Pourquoi lui refuser cela? D'ailleurs, l'Église ne le lui refuse pas, le pape Saint Pie X est explicite là-dessus. Et donc, le titre, en fait, de corédemptrice, qui, faut le reconnaître, a pu même notre bon archevêque de Besançon, mort en 1966, Monseigneur Dubois, qui a écrit un excellent ouvrage, La Petite Somme Mariale, reconnaît que certains théologiens ont pu être réticents par rapport à l'utilisation de ce titre de corédemptrice. Réticents, ça ne veut pas dire qu'ils ont nié, ça veut dire qu'ils ont émis certaines réserves. Mais il a été répondu de nombreuses fois à ces objections éventuelles. Donc, corédemption, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie justement que Marie est associée intimement à l'œuvre de notre rédemption et qu'elle nous mérite d'un mérite de convenance ce que Jésus-Christ nous mérite d'un mérite de condignité. C'est ce que dit le pape Saint Pie X. D'où le titre de corédemptrice est convenable. De même, le titre de médiatrice. Saint Pie X nous dit qu'elle est dispensatrice de tous les trésors. Il nous dit qu'elle est le ministre suprême de la dispensation des grâces. Je vous relis ce que dit la note. Dans la parfaite immédiateté entre l'être humain et Dieu pour la communication de la grâce, même Marie ne peut intervenir. Donc la note s'oppose frontalement à ce que dit Saint Pie X. Frontalement. C'est rigoureusement, donc, un refus de ce que dit Saint Pie X. C'est pour cette raison que les pères, comme notre grand saint Bernard, appellent la très sainte Vierge l'aqueduc de toutes les grâces. C'est pour cette raison que nous pouvons penser que toutes les grâces passent par les mains de la très sainte Vierge Marie. Non pas comme si elle était une autre source de la grâce. Et là, le texte du DDF est de mauvaise foi. Elle invente une espèce de faux ennemi, de fausse doctrine, soi-disant, qui est véhiculée sur les réseaux sociaux, etc. Il n'y a rien de concret qui soit cité, rien. On invente, il est question, il y a tout un paragraphe qui est assez lunaire, où le mot imaginaire est répété plusieurs fois. C'est pas de l'imaginaire, là, c'est la doctrine enseignée en permanence par l'Église, pour le coup. Et donc, on invente un faux ennemi, comme si on avait dit, par le passé, qu'il y avait une autre source de la grâce et que cette source s'appelait Marie. Il s'agit pas de ça, c'est faux. Mais une source, elle est canalisée. Et si dans la volonté de Dieu, c'est que cette source soit canalisée et que le canal soit la très sainte Vierge, alors il y a le canal aussi qui est l'Église catholique, hein, bien entendu, eh bien, c'est dans la volonté de Dieu. Et c'est ce que disent les auteurs comme saint Bernard, et même ici comme le pape saint Pie X. Et le pape saint Pie X cite saint Bernardin de Sienne avec cette métaphore, puisque Jésus est la tête, eh bien, tout l'influx de la tête passe par le cou. Et donc la très sainte Vierge Marie est comme le cou par lequel passent toutes les grâces. Donc c'est rigoureusement le contraire de ce que dit la note. Objection. Puisque Marie est elle-même rachetée en prévision des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que dit la définition du dogme de l'Immaculée Conception. Comment peut-elle être corédemptrice, puisqu'elle-même est rachetée? Comment? Eh bien, elle est rachetée en prévision. Donc, elle est constituée en grâce dès le premier instant de sa conception. Et ça, effectivement, elle ne peut pas le mériter pour elle-même. Donc, pour elle-même, bien sûr, elle est rachetée, et elle est la première rachetée. Mais en tant que première rachetée, et créée par Dieu, conçue dans l'Immaculée Conception, après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle mérite tout ce que peut mériter Jésus. Elle mérite des congruo, non pas pour elle la première grâce, mais pour elle toutes les grâces successives qu'elle va avoir au cours de sa vie, et pour les autres toutes les grâces dont ils vont pouvoir profiter. Donc ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, ce titre de première rachetée est très utilisé avec l'image, la typologie chez les pères de l'Église de la nouvelle Ève. Le nouvel Adam, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle Ève, c'est la très sainte Vierge Marie. Rappelez-vous, au début de la Genèse, comment, de quoi, de qui naît et conçue ou est créée Ève? Elle est créée à partir d'Adam. Donc, on peut employer cette même image pour la très sainte Vierge Marie. Elle est créée en grâce à partir, effectivement, des grâces de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais après, une fois qu'elle est constituée en grâce, et ceci dès le premier instant de sa conception, elle est pleinement associée à notre Seigneur Jésus-Christ dans l'œuvre de la rédemption pour écraser la tête du démon, la tête du serpent, et elle est constituée donc nouvelle Ève. Il n'y a aucun problème là-dessus. La conclusion, mes bien chers frères, ce texte exprime des doctrines qui sentent pas bon. Le salut par le Christ seul, avec une insistance très forte. La négation de tous les intermédiaires dans l'ordre de la grâce, avec une insistance très forte. C'est du protestantisme. Donc le but œcuménique, il est atteint. Et tellement atteint que la théologie du salut et du mérite pue le protestantisme, littéralement. Les intermédiaires, les coopérateurs dans l'ordre de la grâce sont renvoyés à trois choses. Exemplarité, disposition, intercession. Il n'y a pas de véritable causalité. Alors, quid de l'Église ? S'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme dans l'ordre de la grâce, l'Église, ça sert à quoi ? Le but de la note, c'est de parler uniquement de Marie, mais en touchant à cette question de la rédemption et de la transmission de la grâce par, ou par personne en fait, par Dieu lui-même directement, sans aucun canot, quid de l'Église ? À quoi ça sert ? C'est le protestantisme. Quid des sacrements ? Dieu communique sa grâce directement. C'est pour cette raison que les protestants ont nié les sacrements. Ou pour le peu de sacrements qu'ils ont gardés, leur efficacité, elle est due à quoi ? Exemplarité, disposition, intercession, comme par hasard. Exemplarité, la signification des sacrements nous donne un exemple de ce qui se passe dans notre âme. Il n'y a plus une réelle efficacité. Disposition, par cette prière qui fait partie des sacrements, l'âme est disposée à recevoir les grâces de Dieu, mais ce n'est plus le sacrement qui la donne, la grâce. Troisièmement, intercession. On prie les uns pour les autres, l'Église prie pour nous, pour qu'on reçoive les grâces. Le texte ne le dit pas, mais il insiste tellement, et il ressort du texte, que la grâce, la coopération à la grâce, ne peut arriver de la part des créatures que par exemplarité, disposition, intercession, c'est du protestantisme. Donc, je le répète quand même, il n'est pas question directement des sacrements, ici. Mais en touchant et en insistant tellement sur ces questions-là de cette manière, il est difficile que cette note échappe à une négation implicite. Enfin, c'est même pas implicite parce qu'il y a une négation explicite pour la Très Sainte Vierge de toute intervention dans le don de la grâce et dans le mérite de la grâce. Donc déjà, de toute façon, ça, c'est extrêmement problématique doctrinalement. Mais en allant plus loin et avec les principes qui sont posés, l'Église devient inutile, les sacrements deviennent inutiles, ou du moins utiles par accident, uniquement comme favorisant extérieurement une bonne réception des grâces de Dieu. C'est une espèce de, on positionne l'antenne correctement quoi pour recevoir la grâce de Dieu. Donc ce n'est pas anodin, c'est le dicaster pour la doctrine de la foi. Jamais dans l'Église avant Vatican II on a vu cela. De telles négations, une telle doctrine qui sent fortement le protestantisme. Donc c'est extrêmement grave, et je voudrais conclure avec Saint Pie X, hein, tout simplement. Ces hommes, nous dit-il, séduits par les artifices du démon, ou trompés par de fausses doctrines, croient pouvoir se passer du secours de la Vierge, ou le limiter, infortuné qui néglige Marie sous prétexte d'honneur à rendre à Jésus-Christ, comme si l'on pouvait trouver l'enfant autrement qu'avec la mère. Pour nous donc, réaffirmons ce qu'est réellement la très sainte Vierge Marie. C'est vraiment notre mère. Elle nous a vraiment engendrés par sa vie, par ses mérites, à la grâce sanctifiante. Elle nous a mérité cette grâce sanctifiante par des mérites de convenance, certes, mais voulus explicitement par Dieu. Elle a été associée à notre Seigneur Jésus-Christ dans ce mystère de la rédemption, de telle manière qu'elle est l'Ève, la première, la mère de toute l'humanité rachetée. Nous ne voulons pas, nous catholiques, que nous soit ôté ce titre véritablement de mère, pas un titre de mère light qui perd toute sa substance, qui correspond plus à la place d'une grande sœur. Non, elle est notre mère au sens le plus fort, parce qu'elle nous a engendrés dans les douleurs de la croix, au pied de la croix. Elle est morte mystiquement pour nous, en union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Si aujourd'hui nous avons la grâce sanctifiante, c'est aussi par les mérites de la très sainte Vierge Marie. C'est pourquoi nous l'appelons avec dévotion corédemptrice. Et nous insistons là-dessus. Nous l'appelons aussi parce que toutes les grâces passent par ce canal, comme vient de nous le répéter le pape Saint Pie X avec toute la tradition catholique, à tel point que les auteurs considéraient comme définissable ce dogme de la médiation universelle de Marie. Donc Marie est vraiment notre mère parce qu'elle est corédemptrice. Marie est vraiment notre mère parce que elle nous communique toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et elle nous la communique donc au quotidien, chaque jour, en permanence. Nous devons reconnaître cela. Donc aimons la très sainte Vierge Marie et donnons-lui les titres qu'elle mérite. Marie corédemptrice, Marie médiatrice de toute grâce, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.